Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
La framboise, bah, j'adore ça. C'est un fruit qui est généreux, comme il y a plein de petits points, tout ça, ça donne envie.
La framboise, consommation en hausse, oui, mais production nationale en chute libre.
En cause, le Phytophthora ruby, un champignon présent dans le sol qui attaque les racines. La parade, sélectionner des plants plus résistants, cultivés hors sol et sous abri.
Aujourd'hui, c'est pratiquement plus rentable de faire des framboises.
Voilà, hop, à la confiture. Elles paraissent super jolies, mais c'est des fruits qui sont un peu trop mûrs. La framboise, c'est un fruit qui est très très fragile.
J'aime bien parce qu'elles sont très douces, à la fois l'acidité et le sucre et l'éclatement dans la bouche.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. C'est le petit fruit rouge préféré des Français et sa consommation a d'ailleurs augmenté de façon spectaculaire dans notre pays, plus 10% depuis 2015. Seulement voilà, il y a framboise et framboise. La framboise de jardin qu'on grappillait en cachette chez papy et mamie, la framboise sauvage qu'on trouve encore dans les sous-bois montagneux et la framboise intensive cultivée sous serre chauffée qu'on trouve sur les tartes de certains pâtissiers en plein mois de décembre. Boum, ouais, comment la choisir? Comment la cuisiner? Eh bien, on en parle avec l'une des chefs pâtissières les plus reconnues sur la scène sucrée, c'est Nina Métayer. Bonjour!
Bonjour!
Vous allez bien, Nina?
Très bien, et vous?
Merci, c'est votre première fois sur le plateau dont on va déguster.
Oui.
Vous êtes une grande chef pâtissière, vous avez œuvré dans de grandes maisons comme l'Hôtel Meurice, le grand restaurant de Jean-François Piège, le Café Pushkin, j'en oublie plein, je suis sûr. Hein. Et vous avez un corner actuellement au Printemps Haussmann à Paris qui s'appelle...
La délicatisserie.
La délicatisserie, on y trouve d'excellents gâteaux, de très belles créations. Et la framboise est pour vous tout simplement un fruit fétiche. Vous allez nous raconter pourquoi, hein. Il y a une raison à cela notamment. Et vous allez nous proposer plein de recettes et tours de main pour sublimer ce fruit en cuisine. Allez, un petit avant-goût.
Bah là, on va avoir un crumble, framboise rhubarbe, avec des petites fleurs de sureau. Un financier à la framboise.
À vous dévoiler tout. Mais c'est très bien.
Justement, j'ai encore une surprise.
Ça nous met en appétit. Et ben, très bien. Il y a des surprises, il y en aura plein tout au long de cette émission. Nous partirons également, figurez-vous, Nina, à la rencontre d'un artisan d'excellence, un producteur de framboises de la région de Tursan. On est en plein cœur des Landes. Il s'appelle Philippe Sébi. C'est le fournisseur de framboises des grands chefs. On est allé visiter son exploitation, notre reportage, dans le courant de cette émission. À mes côtés également, pour célébrer ce petit fruit de printemps, mais également d'été, notre chroniqueur vin Antoine Gerbel. Bonjour Antoine.
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Bah très bien, c'est mon fruit préféré, vous me gâtez là aujourd'hui.
Et ben tant mieux.
Et on va partir sur les traces de la framboise, mais dans le goût des vins.
Oui.
Et il y a un cépage, un vieux cépage languedocien, qui a particulièrement des arômes et un goût de framboise.
On révèle son identité?
Tout de suite?
Non.
Allez.
Tout à l'heure?
Tout à l'heure, bien sûr.
Un cépage du sud-ouest. Avec un goût de framboise, il y en a peut-être autour de notre plateau qui ont trouvé. Et puis j'ai aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission les M et M, Marie et Mathieu Conquet pour leurs accords Mets et Musique. Bonjour les amis.
Bonjour.
Le principe, une recette et la playlist idéale pour la déguster. Au menu, Marie.
Alors je vous propose de détourner la framboise sur un plat salé. Un vitello tonnato, 100% de saison, local et avec des framboises.
Vitello tonnato, avec un accent framboisier, ça me plaît. Mathieu?
Mais il serait question d'une framboise qu'on appelle framboise, mais aussi de comment la couleur du fruit sert de prétexte, encore une fois, à tous les jeux de mots les plus grivois, mais tout ça en rythme.
Oui, c'est ça, bien sûr, puisque la framboise est au menu de vos morceaux, Mathieu, puisque je rappelle que vous animez l'émission et je remets le son le samedi à 22h. Et Marie, vous êtes d'ailleurs cuisinière au Résistant, le comptoir, une très belle adresse à Paris, vous nous en rappelez l'adresse?
C'est 18 rue de Château d'Eau dans le 10e, pas très loin de République.
Merci beaucoup. Tous les contenus de l'émission, nos coups de cœur, nos recettes, nos podcasts sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de cueillir et de cuisiner la framboise, je voudrais vous donner d'excellentes nouvelles de notre chroniqueuse cuisinière Manon Fleury, que vous entendez très régulièrement à ce micro. Manon est l'une des chefs les plus engagés et les plus inspirés de sa génération. Elle a fait, il y a quelques années, une entrée fracassante sur la scène parisienne au fourneau du Mermoz, un bistrot gastronomique du 8e arrondissement de Paris, où elle faisait déjà d'excellentes prouesses végétales. Vous connaissez Manon Fleury, Nina, ou pas?
Oui, bien sûr.
Ah, vous
beaucoup.
Connaissez?
Oui.
Voilà, bon, entre gens de talent, forcément, on s'entend bien. Vous connaissez Manon?
Oui, Marie m'y avait emmené une fois au Mermoz.
Au Mermoz,
oui.
C'est super.
Super.
C'était vraiment un très très beau bistrot engagé. Et Manon, remet le couvert. C'est une très bonne nouvelle pour quelques mois à Paris, dans un endroit très haut perché. Ça s'appelle le Perchoir Ménilmontant. Je suis allé lui rendre visite lundi dernier. Attention, elle était à quelques heures seulement de son tout premier service. Et je l'ai surprise en train de préparer un intrigant jus légumier.
Oui, c'est un jus qui permet à la fois de récupérer toutes les parures de légumes qu'on a dans la cuisine au quotidien, parce que quand on travaille les légumes, on a quand même beaucoup de parures, qu'on fait en faisant torréfier les légumes au départ, en les faisant griller, ce qui apporte un goût torréfié au jus et qui va faire qu'on va se rapprocher dans la texture et dans l'aspect d'un jus de viande.
On peut aller voir ça de plus près ?
On y va, c'est parti.
Bonjour.
Bonjour.
Brigade 100% féminine, Manon ?
Brigade 100% féminine, oui. De fait, ça s'est fait comme ça, parce que j'ai reçu 80% de CV de femmes et j'ai fait le choix de me dire que je prenais les meilleurs CV et c'était des CV de femmes. Donc je suis très contente et très fière d'avoir une équipe 100% féminine. Donc là, Louise a pris la parure de légumes qu'on a récupérée dans la cuisine.
Donc oui, on a des oignons nouveaux, de la betterave, épluchures de asperges. Et je crois que c'est à peu près tout. Et des carottes.
Carottes,
carottes un petit peu, ouais.
Là, on va tout faire revenir. Il faut vraiment que ça aille vraiment jusqu'à caramélisation. Donc là, on couvre avec de l'eau à hauteur. Et donc l'idée, c'est de faire mijoter assez longuement pendant à peu près 1h30, 2h. Et ensuite, on passe ses légumes et on fait réduire le jus vraiment dans le même principe qu'un jus de viande. Le voilà qui
wow.
Boue et qui a vraiment l'apparence ambré, caramélisé.
Presque brun en fait.
Presque brun. Et vraiment, quand on le sert aux clients, il y a beaucoup de clients qui trouvent qu'à s'y méprendre que ça on dirait un jus de viande. C'est très chaud, attention.
Bah, il y a ce très bon rapport entre la rondeur et la fraîcheur, l'acidité. Il y a une texture formidable qui est assez soyeuse et sirupeuse. Très belle longueur en bouche.
Oui, ouais, c'est intéressant.
Comment ce soir, sur quel plat va être utilisé ce jus légumier ?
Ce soir, il va être utilisé sur un plat à base de betterave. Chercher une texture de viande dans la betterave, ce côté un peu chewy que peut avoir la betterave quand elle est confite longtemps au four, notamment là elle est confite dans une croûte de sel, et on va la condimenter, donc on amène une petite pâte de noisette, on ajoute des algues poivrées de chez Jean-Marie Pédron, de l'amarante de chez Pierre Gaillet, voilà. Et l'idée c'est de servir une brioche à partager, que les clients puissent saucer ce jus, donc d'avoir ce plat légumier et ce plat très végétal, mais toujours avec beaucoup de gourmandise et que le client se régale.
Bon, bah on a hâte de goûter.
Nous aussi.
Pour ce soir, on croise les doigts.
On a le trac, mais ça va le faire.
Bon courage.
Merci beaucoup.
Et on a vraiment hâte de goûter cette création végétale autour de la betterave, accompagnée donc de ce fameux jus légumier et de cette brioche qu'on imagine bien moelleuse. Ça se passe dans un menu en 8 étapes à déguster au dîner. Manon Fleury, en résidence au Perchoir Ménilmontant jusqu'au 29 juillet, 14 rue Crespin du Gast, dans le 11e arrondissement de Paris. On vous a mis toutes les infos évidemment sur cette résidence, ainsi que la recette de son jus légumier qui est tout à fait faisable à la maison. Voilà, tout ça sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. C'est Laurent Thomas qui est derrière la console de cette émission, avec Thomas Langlin à la technique, Nadia Chougui pour la préparation, la logistique, l'animation de notre site internet. On croque la framboise juste après. Solitaire de Donna Blue, choisi par Djoubaka. Vous êtes bien sur France Inter.
Oh,
La framboise, au menu dont on va déguster. Quand je cherche un renseignement sur un fruit, moi j'ai toujours un réflexe, celui de me plonger dans ce petit livre que j'aime beaucoup, je sais pas si vous le connaissez, je l'ai toujours à portée de main dans ma bibliothèque, Des fruits, petite encyclopédie gourmande. Ça a été écrit en 1994 par Jean-Marie Pelt, le grand écologue et spécialiste de botanique, voilà. Et à la page, framboise, je vous livre ce qu'il écrit. Rubus idaeus, la ronce de l'Ida. En baptisant ainsi la framboise, les botanistes ont conservé ici une tradition antique, reprise par Pline, selon laquelle cette ronce serait ainsi nommée parce qu'elle pousse sur le mont Ida, en Crète et nulle part ailleurs. Jadis, d'après la légende, toutes les framboises étaient blanches, mais un jour que Jupiter, encore enfant, poussait des cris furieux au flanc de la montagne, la nymphe Ida, sa nourrice, voulut pour l'apaiser lui offrir une framboise. Elle s'égratigna le sein aux épines de l'arbuste, le sang jaillit, et teignit à jamais le fruit d'un rouge éclatant. En français, framboise est une abréviation de fraise des bois, car on la trouve dans les mêmes stations que cette dernière, bois humides, ombragés et rocailleux au nord de l'Europe. Le framboisier est une sorte de ronce améliorée par la culture. Il pousse à l'état sauvage dans les régions montagneuses d'Europe occidentale. Les fruits sont rouges, rarement blancs. Vous nous confirmez que vous préférez les framboises rouges, Nina ?
Ah bah, moi, je connais des framboises jaunes, des petites framboises jaunes que j'aime bien aussi, que je trouve sucrées et mignonnes.
Et que vous cuisinez dans vos gâteaux ?
Alors, celle-là, je la cuisine rarement, mais je la mangeais, j'aime bien la manger dans les jardins. Surtout, je trouve que c'est une framboise assez rigolote.
On a vu que le fruit était donc un fruit mythologique, hein, cette fameuse framboise. Mais pour vous, Nina, c'est un fruit mythique, je dirais même que c'est un fruit de l'enfance. Racontez-nous.
Oui, alors, mes grands-parents avaient un terrain en Vendée. Un terrain où mon père allait, où mon grand-père allait pêcher, et avec ma grand-mère, on préparait le poisson qu'il avait pêché, etc. Et l'après-midi, on enlevait toutes les mauvaises herbes du jardin et on récoltait les petites framboises. Dès qu'il y en avait un petit peu mûr, je demandais à ma grand-mère si elle était assez mûre pour que je puisse l'accueillir, et je grignotais toutes les framboises du jardin.
Ah oui, donc votre premier souvenir, c'est d'abord un exceptionnel fruit de cueillette.
Oui. Et à chaque fois, j'essayais de tenter quelques-unes en plus qui n'étaient pas assez rouges. Et elle me rappelait toujours non.
Souvenir,
mange-la bien mûre.
Souvenir de cueillette pour tout le monde autour de ce plateau.
Ah oui.
Marie Conquet.
Potager, jardin d'enfance.
À hauteur d'enfant.
Ouais.
Et oui.
C'est fantastique. C'est, voilà, c'est
à hauteur de bouche d'enfant.
Voilà. On peut faire une orgie, on peut parfois tomber sur une punaise si on n'a pas de chance.
Ça, c'est vrai.
Ça marque tout l'été parce que vous commencez avec les framboises et à la fin de l'été, quand on est triste, qu'il faut préparer le cartable de la rentrée et tout, bah, il y a les mûres qui commencent à arriver, donc c'est la récompense. Mais là, par contre, on va se piquer pour de vrai, quoi.
C'est ça, oui, parce que heureusement, la framboise, quand elle est cultivée, elle n'a plus d'épines et ça, c'est une excellente nouvelle, mais on sent vraiment que la framboise est une madeleine de Proust universelle, finalement. Et aujourd'hui, je crois savoir, chère Nina, que la boucle se boucle, puisque vous reproduisez un peu cette atmosphère de jardin secret, quelque part en Normandie, on peut en savoir plus ?
Oui, alors à côté de Verneuil-sur-Avre.
Oui, on est dans l'Eure, hein, c'est ça ?
Dans l'Eure, voilà. J'ai un grand jardin et on a planté plus de 15 arbres fruitiers depuis qu'on est là-bas. J'ai ma chef de production, Chloé, qui m'a offert des petits pieds, ces petits pieds de framboisier. Donc du coup, ça y est, ils commencent à donner, je suis trop contente. Plein de des fraises, plein de fruits dans ce jardin-là.
Alors, on va se reposer là-bas ou on va travailler, chercher l'inspiration, dites-nous.
C'est un peu un mélange des deux. C'est un peu mon équilibre, je travaille avec ma famille un peu là-bas.
Parce que vous êtes équipé quand même d'un labo.
Exactement.
Ah oui, donc vous travaillez, mais vous faites profiter votre famille de vos prouesses.
Voilà, on travaille ensemble, on fait même des vidéos avec les enfants, etc. On fait plein de pâtisseries.
En cuisinant au hasard, tiens, un crumble, framboise rhubarbe. Ça tombe bien, c'est la saison des deux fruits, si tant est qu'on puisse considérer la rhubarbe comme un fruit. Vous nous l'avez apporté, il a atterri sur le plateau dont on va déguster. Les parts ont déjà été distribuées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce crumble framboise rhubarbe, Marie Conquet ?
Gourmand, croquant, et on sent vraiment les deux fruits. Parce que souvent, dans les crumbles, ils ont tendance à se mélanger, on peut perdre un peu les saveurs. Là, on a vraiment l'acidité de la framboise, mais aussi celle de la rhubarbe, et avec le beurre qui vient tout arrondir.
Et je dirais même qu'on a les deux textures de fruits aussi, et notamment le côté très fondant de cette rhubarbe un peu acidulée, et cette framboise qui reste un fruit quand même acidulé, mais qui arrondit les angles quand même. Hein.
Elle va équilibrer la rhubarbe, et ça marche très bien ensemble. Le côté beurré, exactement, qui vient arrondir le tout et qui vient apporter toute la gourmandise.
Mathieu ?
C'est une tuerie, c'est très très bon.
C'est une tuerie,
En plus, c'est joli, vous avez mis des petites fleurs de sureau qui viennent décorer. Et là, mais il y a une poudre, c'est quoi ? C'est une poudre d'amande que vous avez utilisée ?
Ah oui, bien vu. Il y a un côté un peu frangipane.
J'ai mélangé poudre d'amande et poudre de noisette. Et ça va apporter le côté un peu torréfié. un peu grillé au four qui va cuire assez longtemps. Donc,
on est à la maison, on a à disposition de belles framboises éventuellement dans le jardin et de la rhubarbe ou sinon on les achète au marché. Comment on s'y prend en quelques étapes pour faire ce crumble ?
Alors moi ce que j'aime bien faire c'est faire rôtir d'abord mes rhubarbes au four.
Oui.
Avec un peu de miel, avec on peut mettre, voilà, on peut l'assaisonner un petit peu. Et comme ça, ça va faire dégorger un peu l'eau de la rhubarbe. Et puis on va commencer à la rôtir, elle va cuire un peu plus longtemps que la framboise. Et ça me permet après de mélanger cette rhubarbe rôtie avec la framboise dans un plat.
Donc framboise fraîche ?
Oui.
Ou vous faites rôtir aussi la framboise ?
Non, framboise fraîche. Ouais. Comme ça, on va éviter de la mettre trop en compote. Et ensuite, on fait son petit crumble dessus. Donc moi,
alors,
j'aime bien mélanger.
Le secret de ce crumble, donc on a compris qu'il y a de la poudre de noisette, de la poudre d'amande, il y a du beurre, j'imagine ?
Évidemment. C'est un peu un temps pour temps où on va avoir beurre, sucre, et ensuite poudre d'amande et poudre de noisette.
Et il y a une pointe de sel qui est très agréable.
C'est le plus important. C'est la fleur de sel en plus.
Ah, c'est pas beurre de micelle, c'est de la fleur de sel dans l'appareil.
Toujours, je travaille toujours beurre doux, où j'ajoute ma fleur de sel, comme ça on garde le côté craquant, et quand on tombe sur une petite pépite de fleur de sel, on y retourne.
Quel temps de cuisson ?
Alors, ça dépend des fours, mais plutôt 180 degrés pendant une bonne demi-heure.
D'accord.
Voilà, assez long.
Et on obtient ce crumble formidablement bronzé, généreux, délicieux, entre rondeur et fraîcheur fruitée. Ça va, vous valider ou pas, Antoine Gervais ?
Complètement, surtout qu'on est au début quand même de la saison. Moi, j'en ai plein mon jardin, j'en ai planté. Les fraises commencent à sortir, mais les framboises tardent un tout petit peu. Et là, on a ce côté acidulé qui est bien évidemment à laquelle répond la rhubarbe.
On peut savoir où se trouve votre jardin, Antoine ?
En Seine-et-Marne, pas très loin de Coulommiers.
Très bien, et ben, vous nous invitez, juste après l'émission, brunch et Antoine Gervais en Seine-et-Marne.
Allez.
Les Français sont amoureux de ce petit fruit, ça je le disais dans l'introduction de cette émission. En France, sa consommation ne cesse de grimper, mais problème, sa production ne cesse de chuter, cherchez l'erreur. Selon l'association de valorisation de la framboise française, on produisait 8000 tonnes de framboises fraîches il y a 20 ans, contre 4000 tonnes aujourd'hui, donc quand même deux fois moins. Et en 2019, écoutez bien, c'est quand même un chiffre édifiant, seulement 13% des framboises commercialisées étaient d'origine française. Ça veut dire que la France importe plus de 22 000 tonnes de framboises fraîches pour satisfaire son marché et s'approvisionne principalement en Espagne, au Portugal, au Maroc. À l'heure où l'on parle de la nécessité d'encourager la souveraineté alimentaire, ça vous inspire quoi ces chiffres qui sont pas franchement très bons pour notre autonomie en framboises en France, Nina Métayer ?
Mais alors moi je m'attendais pas à ce que ce soit autant d'importations.
Et c'est notamment lié au coût de la main-d'œuvre qui est très important en France.
On sous-évalue aussi tout le travail que demandent de tous ces fruits, ces cueillettes, à savoir aussi comment on le cultive, avec tous les aléas aussi des saisons, des pluies, des sécheresses, etc. Et c'est un travail qui est très important, et c'est vrai que ça a un coût, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts encore à acheter au juste prix les fruits, les légumes, ou même simplement acheter bien ses courses.
Absolument. Et justement, pour cuisiner ces recettes comme ce crumble à la rhubarbe et à la framboise, vous arrivez à trouver de la belle framboise française, quel que soit le prix ?
Alors oui, je la trouve, tout à fait. Et puis, j'aime bien passer directement par le producteur, comme ça évite des intermédiaires, donc on a un prix qui est un peu plus juste, transparent en tout cas, et équitable pour tout le monde. Après, c'est vrai que ça demande une organisation, parce qu'il faut aller la chercher, parce qu'il faut s'organiser sur les commandes, etc. Et c'est vrai que nous, on travaille beaucoup comme ça, la délicatisserie, donc on est en précommande. On valorise la précommande, ce qui nous aide aussi à organiser nos livraisons, les travailler avec les fournisseurs.
Donc on précommande des gâteaux, on sait exactement la quantité de matières premières et de fruits qu'il faut, vous passez vos commandes, tout ça en direct, on l'a compris, sans intermédiaire, avec effectivement des approvisionnements le plus possible en circuit court.
Exactement, donc on cherche aux alentours de Paris à chaque fois.
Il y a des orfèvres de la framboise, vous nous le dites, mais il y en a un que je voudrais vous présenter, je crois que vous ne le connaissez pas, il est étonnant, il s'appelle Philippe Sébi. Je l'ai rencontré dans son exploitation à l'est du département des Landes, on est à Bahus-Soubiran, près de la station thermale de Genis-les-Bains. Ces framboises se trouve d'ailleurs très souvent en saison à la table d'un certain Michel Guérard, que vous connaissez, le chef 3 étoiles des Prés de Génie. Ces framboises ont même été servies, figurez-vous, à la table du G7 à Biarritz, au Palais de Génie en 2019. Et tout est parti d'une aventure familiale.
Mon père a commencé la production de framboises en 1965 sur la ferme, et depuis on a toujours produit des framboises. À côté de ça, on s'est diversifié, on a eu fait du cassis, de la fraise des bois, qu'est-ce qu'on a fait encore, de la prune de Californie. Voilà, bon, après ça a plus ou moins bien marché, après on a eu des aléas climatiques qui nous ont quand même perturbé pas mal. Donc là on s'est spécialisé, enfin moi toujours, mon père a pris la retraite en framboise, je me suis spécialisé depuis une dizaine d'années dans vraiment la belle framboise. Allez, on va visiter. Alors mon mode de culture, c'est le super raisonné. Donc on travaille au maximum avec des engrais naturels, à base de micro-organismes. Et donc, j'en mets partout, dans mes vignes, dans mes framboisiers. Mes framboises sont produites en hors-sol, parce qu'on a des gros soucis racinaires. Depuis le temps qu'on produit de la framboise en pleine terre, on a les racines des framboisiers qui étaient attaquées par des champignons. Donc on ne pouvait plus produire, donc on est passé en hors-sol. Et aujourd'hui, moi je travaille non pas sur de la fibre de coco, mais sur de l'écorce de pin maritime qui est produite à 100 km d'ici, dans les Landes ou en Gironde. Et c'est un produit 100% naturel et recyclable surtout.
Il y a une belle vue là.
Et on est bien ici dans les Landes, tout le monde croit que c'est plat. En fin de compte, vous voyez, c'est vallonné. Ici, nous arrivons dans ma dernière serre où je cultive des framboises, voilà, en hors-sol.
Elles grimpent, hein ?
Nos arbustes font jusqu'à 2,50 m de haut, hein, voilà. Donc on a des petits chariots spéciaux avec deux marches pour attraper les framboises qui sont un petit pote, quoi, voilà. Alors nous, on récolte, en fin de compte, c'est le temps qui nous guide, quoi. Et donc on arrête dès qu'il y a des gelées. Parce que je ne chauffe pas les serres et ça n'a pas d'intérêt, voilà. Donc on reste avec la nature. Et après, au niveau des ravageurs, on essaye de s'affranchir des ravageurs en maintenant maximum propre les plantations. Voilà. En effeuillant, c'est hyper technique, mais bon, c'est des petits secrets qu'on a de production, en fin de compte.
Alors là, il faut savoir... Elles sont énormes.
Ouais, elles sont belles, mais il faut savoir que la framboise, quand il fait chaud, elle va mûrir au bout de 2 jours. Donc on va passer 3 fois par semaine. Au niveau variété, on travaille sur 5-6 variétés. Donc moi, je me refuse à faire des variétés pour faire de la framboise productive, c'est-à-dire, moi j'ai des variétés qui ne produisent pas beaucoup, mais qui sont exceptionnellement bonnes, et qui ne sont plus beaucoup produites. C'est un choix, et je suis en circuit court, je me commercialise tout, donc ça fait que mon intérêt, moi, c'est de faire de la qualité. Alors moi, je commence par Tulamine, c'est une très vieille variété, voilà, donc c'est une variété de printemps. Ensuite, on embraye sur la Polka, c'est une vieille variété, pareil, c'est une framboise foncée, qui est plus trop demandée par la distribution, parce que les gens, ils veulent des framboises claires, mais c'est une framboise qui est exceptionnellement bonne, et moi, je trouve ça, elle est charnue, elle est magnifique. Ensuite, on a des variétés Stylène Rosadira, Paris, Versailles, voilà, donc c'est des variétés françaises.
Et là, c'est lesquelles qui sont mûres comme ça, bien bodybuildées?
Alors là, on est sur une Rosadira, et après, on a juste derrière, à l'autre serre, on a de la Polka. Après, on produit du fruit, hein, vous savez, c'est pas une science exacte, hein. C'est fragile, la framboise, parce que si c'était si facile que ça, beaucoup de gens en feraient. Donc on ramasse, et le lendemain, on livre. Mon fils qui est revenu avec moi au mois de juin, il a terminé ses études, et on recommence ça 3 fois par semaine. Voilà, c'est un travail assez important quand même.
Tout est propre, on sent vraiment que vos...
C'est ce que me disaient mes clients, ils me disent c'est surprenant, on est surpris par la propreté de ton établissement. Donc,
celle-là, elle a l'air bien mûre aussi. Hein.
Ouais, sympa. Ah ouais, elle est belle, elle est magnifique, vous avez l'œil. Tiens. Et elle n'a pas l'air mauvaise, je pense, en plus, celle-là.
Quelle
bien,
variété?
Bien dodue. Bah, toujours pareil, toujours. Ici on est dans la serre d'Eden Rosadira.
Oh, le sucre.
Ouais, voilà.
Là, il y en a.
Ouais, mais ça, c'est des framboises. Quand on ne force pas le fruit, il prend son temps de mûrir. Et après, il exprime tout son potentiel, en fin de compte. Voilà. Quand on démarre, c'est pas possible d'arriver à faire ce qu'on fait. Parce qu'il y a beaucoup de secrets. La framboise n'a pas été étudiée au niveau de la production comme la fraise ou d'autres cultures, quoi, en fin de compte.
Et en fait, ces pieds de framboisier,
oui.
Vous allez les remplacer l'année prochaine?
Ouais. En fin de compte, moi, je les garde que 2 ans, la framboise, pour une simple et bonne raison, c'est qu'après, au-dessus de 2 ans, comme c'est cultivé en pot, ça nous demande trop d'entretien. On a un système racinaire qui est très puissant. Et après, on va perdre un calibre de fruits en 3e année. Voilà. Donc après, c'est un investissement. Hein. Comme tout est naturel, nous, on le met dans un bois, ça se composte et ça repart à la nature. Puis la boucle est bouclée. Voilà. C'est très tendance en ce moment. Hein. Mais bon, zéro déchet. On cultive dans des pots qui sont recyclés, recyclables. Moi, mes pots, ils me servent depuis 10 ans. Voilà, certains vont cultiver dans des sacs plastiques. Ben, moi, je me refuse. C'est un choix.
Philippe Sébi, qui a misé sur la framboise de grande qualité dans les Landes, dans la foulée de son père, qui a quand même commencé à planter des framboisiers en 1965. Et aujourd'hui, Philippe Sébi travaille avec son fils Valentin, qui produit d'ailleurs aussi des fraises, des grenadiers, des agrumes, voilà, et notamment du yuzu. Et là, comme par miracle, il y a 2 de ces framboises, les toutes premières de la saison, des framboises fraîches, qui sont devant vous. Alors, il y a la variété N. Rosadira. Il ne voulait pas nous les envoyer au départ, Philippe Sébi, parce qu'il me dit non, ce n'est pas encore le meilleur de la saison, elles ne sont pas assez sucrées.
Elles sont super.
Vous en pensez
très
quoi,
bonnes, hein. Elles sont vraiment super bonnes.
Et puis elles sont énormes, elles sont plus grosses que le pouce. Moi, je n'ai jamais cueilli des framboises comme ça.
Elles sont énormes.
Elles sont magnifiques.
Hein. Ouais, très charnues.
Le début de saison, on le sent parce que ça croque un petit peu plus quand même sous la dent. Mm-hmm. Mais moi, j'aime beaucoup cette sensation aussi.
Moi, j'aime bien parce qu'elles me rappellent justement les framboises du jardin que je mangeais. Elles ont vraiment ce côté bien boisé. et elles sont très différenciantes de certaines framboises qu'on peut trouver parfois qui sont pas forcément sourcées. Mm-hmm. Celles-là, on sent le côté jardin.
Des belles framboises de jardin, bah c'est des compliments qui vont lui aller droit au cœur, je pense. Et puis, il fait également des produits dérivés à base de framboises. Ah oui, il y a des petits bocaux qui sont en train de sourire. Ça va, il n'y a pas trop de dégâts, Mathieu ?
Non, ça va.
Qu'est-ce que vous avez ouvert ?
C'est les framboises de Tursan à l'eau de vie.
Ouais.
Des sables fauves.
Alors, n'en mangez pas trop quand même, mais on peut avoir un petit avis ou pas. Il fait également des pickles, des coulis, des confitures. Il fait également des framboises compotées au sirop ou à l'armagnac. Il fait des tonnes de choses.
Non, mais ce qui est génial, c'est qu'on revient à la framboise blanche dont on parlait tout à l'heure, parce que là, en fait, toute la couleur est partie dans l'eau de vie, et là, la framboise, elle est très pâle, quoi. Hein, mais attendez, bon, on va voir au goût. Oh là là, c'est une explosion, en fait. C'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que vous avez la framboise, mais bodybuildée x10, quoi. Je m'attendais à quelque chose de très fort, tôt le matin, comme ça. Et non, ça passe bien. C'est très, très, très bon avec l'eau de vie, là.
Ça a un petit goût bonbon. Bonbon sucré. Et ce qui est chouette, c'est qu'on garde vraiment la texture de la framboise.
Et le côté un peu charnu, sachant que la framboise, ça donne aussi, évidemment, je me tourne vers Antoine Gerbel, de magnifiques eaux de vie, hein, bien sûr.
Magnifiques eaux de vie, et les très bonnes eaux de vie de framboise sont rares, parce que, comme on l'a entendu, c'est très difficile à cultiver, ça pourrit très vite, donc la conservation, si on veut pas massacrer les fruits en mettant beaucoup de soufre, comme ça se fait beaucoup dans la distillation, on est à Tursan, pas très loin, il y a Laurent Cazotte, si on veut goûter une framboise, mais aussi aller en Alsace aussi, où il y a une superbe tradition quand même autour des eaux de vie. Juste là, ce qui est intéressant, c'est que la framboise, elle est ferme. Parce que quand on s'amuse à mettre un peu de cuisson sur la framboise et même de l'alcool, on perd cette fermeté. Il y a vraiment un tour de main là dans cette petite framboise de Tursan.
Elle garde son côté fruit frais. La framboise des platines au petit plat, c'est la chronique de Marie et Mathieu Conquet.
On va déguster. Sur France Inter.
Il y a une très belle assiette qui parade sur le plateau dont on va déguster. Franchement, celle-là, elle fait envie. Hein. Ça sent non seulement le printemps, mais en plus un peu l'Italie. De quoi s'agit-il, chère Marie ?
Alors, c'est un vitello tonnato 100% français. Donc 100% local.
Ça nous plaît, c'est-à-dire ?
Du veau, des framboises et des petits pois. Il n'y a donc pas de thon dedans.
Parce qu'en général, le vitello tonnato, c'est des tranches de veau avec une sorte de sauce qui mélange du thon, des anchois, et un peu de capre.
Vitello, ça veut dire veau, et tonnato, c'est un participe passé qui signifie au thon en quelque sorte. Hein.
Voilà,
donc vous êtes inspiré de cette recette d'origine piémontaise et vous l'avez un peu retravaillé, la framboise c'est comme ça invité. Comment vous vous y êtes prise, Marie ?
Alors, on connaît déjà surtout l'association foie de veau framboise.
C'est vrai.
Ah, c'est ce qui m'a un peu donné l'idée. Et donc, je garde le veau. Donc, vous prenez un morceau de noix de veau, rond de veau. Enfin, vous discutez avec votre boucher. Il vous expliquera la pièce qu'il faut.
Oui.
Et en fait, le principe de cuisson, donc, c'est le même que pour le vitello tonnato. On le fait mariner dans du vin blanc avec des aromates, ce que vous avez surtout, enfin du vert, d'ail, d'oignon, en ce moment il y en a plein. Prenez toutes les parures de légumes qui traînent et vous mettez ça à mariner au moins 12 heures, genre une nuit. Ce qui est bien, c'est de retourner la pièce de temps en temps si vous voulez. Enfin, vous n'êtes pas obligé de vous lever à 3 heures du matin pour la retourner, mais essayez de le faire.
D'accord.
Ensuite, on marque cette pièce de veau, alors très délicatement, à la poêle, parce que c'est une viande qui est très tendre et assez fragile, donc il ne faut pas la faire durcir.
Mais l'idée, c'est de la colorer ou de la croûter très légèrement.
Très légèrement, vraiment. Et ensuite, on la remet dans la marinade. On couvre avec de l'eau et on laisse mijoter.
Ah, on couvre avec de l'eau ?
Voilà, et on laisse mijoter parce que le vin ne recouvre pas complètement la pièce de viande.
D'accord.
On couvre avec de l'eau et on laisse mijoter vraiment tout doucement.
Combien de temps à peu près ? Alors, ça dépend de la pièce de veau, mais...
Pour une pièce de 600 grammes, une demi-heure, c'est très bien. On laisse refroidir, on met de côté, et c'est là qu'on passe à la framboise. Donc à la place de la fameuse sauce au thon et anchois, je vous propose un genre de harissa à la framboise.
Oh.
Comme pour le veau, il faut aussi s'y prendre à l'avance. Le mieux étant de prendre du coup tous ces ingrédients, c'est-à-dire les échalotes, les oignons nouveaux, ciselés avec des framboises, du sel, du sucre et du piment. Vous mélangez tout ça, vous laissez mariner au moins 12 heures, le mieux c'est même 24 heures pour que saveur s'amalgame et qu'il y a un petit début de fermentation.
C'est génial, cette harissa fruitée.
C'est incroyable.
Prodigieux. Hein.
Et le lendemain, donc, vous mettez tout dans une casserole avec un filet d'huile d'olive et il faut laisser compoter, mais vraiment très doucement, très longtemps. Presque, on l'oublie.
Mm-hmm.
Et si ça doit donner vraiment la texture d'une compote, un peu comme une purée, si vous trouvez que c'est pas assez lisse, vous pouvez la mixer très légèrement, un petit peu, mais il faut garder quand même pas mal de texture.
Et puis on garde les grains de la framboise.
L'idée, c'est vraiment garder les grains de la framboise.
On sent sous la dent les grains, les akènes de la framboise.
Et donc, pour dresser, le veau, vous le coupez en tranches très fines.
Oui.
D'autre part, le jus de veau, vous l'avez fait réduire. Enfin, le jus de cuisson, il faut le faire réduire vraiment jusqu'à obtenir une texture un peu sirupeuse.
Ah, c'est là, ce petit jus de veau qui nappe comme ça les tranches.
Et ce petit jus de veau, on va le mélanger avec de l'huile d'olive, du vinaigre d'estragon et des framboises écrasées. Pour assaisonner les petits pois et en mettre un peu sur les tranches de veau qu'on aura disposées dans une assiette. La harissa d'une part, et puis on prend une tranche de veau, un peu de harissa, quelques petits pois juste cuits.
Quelle belle idée, franchement, de partir de la harissa, qui est cette pâte de piment d'origine tunisienne, en y ajoutant, enfin en associant en tout cas le piment avec sa belle chaleur, la framboise qui a vraiment cette fraîcheur fruitée, ça donne un mariage vraiment extraordinaire. Nina.
C'est très bon.
On
très,
est passé
très bon.
Du sucré avec le crumble salé. On va revenir au sucré avec vous dans un instant. Mais franchement, bravo. Comment vous l'avez baptisé, ce Vitello Tonnato?
Alors, Vitello Framboise, tout simplement. Donc, c'est vraiment juste une version française et vous avez tout à portée de main en ce moment.
Ça nous plaît. Et avec ce Vitello Framboisato, qu'est-ce que l'on écoute, Mathieu?
Alors, je vous avais déjà passé Bobby Lapointe pour parler du nougat, vous en rappelez. Mais puisqu'on fête ses 100 ans et vraiment, comment l'éviter, cette chanson-là? Rappelez-vous.
Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes, qu'elle a vanille, à vanille et framboise. Sont les mamelles du destin.
Extraordinaire. Je l'avais oublié, celle-là, par contre. Autant j'avais le nougat de Bobby Lapointe, mais alors.
La suite est plus croustillante.
Je vais vous le raconter. Vous savez que c'était le premier 45 tours de Bobby Lapointe, qui sortait ce disque en 1960. Et la chanson, en fait, elle est née à l'écran et avec des sous-titres. Je vais vous raconter pourquoi. C'était dans le film de François Truffaut, Tiré sur le pianiste. On voit Bobby Lapointe qui débarque dans le café, qui chante comme ça d'une traite avec Charles Aznavour qui joue derrière au piano. Et alors, pourquoi il y avait des sous-titres? Parce que le producteur du film, il dit, François Truffaut, vous avez une bonne idée, mais on va jamais comprendre cette chanson. C'est incompréhensible, tous les jeux de mots, et du coup, vous me faites sous-titrer ça. Donc, cas très rare au cinéma, vous avez un texte français qui est sous-titré pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, le chanteur de Pézenas, il parle d'une certaine Françoise qui s'appelle Framboise, et c'est plein de jeux de mots de la région, vous l'avez entendu. Pas question de lui prendre le menton, d'ailleurs, parce qu'elle était d'Antibes. Et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour. Voilà, vous avez compris. Et puis ensuite, la fameuse Françoise...
Elle n'est donc pas antiboise.
Voilà, elle manquait davantage pour en avoir davantage, elle se fait faire une opération de chirurgie esthétique, et puis finalement il va renoncer à lui courir après de peur d'attraper une angevine de poitrine. Voilà, à vanille et framboise, au lieu du jeu de mots, parce que vanille et framboise, bien sûr, c'est deux parfums qui vont très bien ensemble, personne ne dira le contraire, mais c'est aussi une référence historique, en fait, à une citation du duc de Sully, le surintendant des finances d'Henri IV, qui avait dit « Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée », donc ça vient de là, les mamelles du destin, et Sully, en fait, il souhaitait une meilleure organisation de l'agriculture française, et tout ça nous ramène au veau, bien sûr. Alors, à propos des framboises en chanson, moi, c'est plutôt du côté des anglophones que j'ai trouvé des choses. Il y avait un bon groupe de rock de Cleveland dans les années 70 qui s'appelait The Raspberries.
Ah oui, parce que c'est raspberry. Hein. Voilà. Moi, je confonds toujours blueberry, raspberry, strawberry. En anglais, tous les berries,
Les Beatles.
Les raspberries, c'était un peu un mélange des Beatles avec les Who. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté mélodique, mais très, très énergique. Alors, si vous les connaissez pas, en tout cas, Eric Carmen, le chanteur, c'est l'auteur d'un tube énorme que je vais pas vous chanter là, mais All By Myself, qui a été chanté par Céline Dion, par des centaines d'interprètes.
Si, vous allez nous le chanter, Mathieu.
Plus élégant, diablement sensuel, c'est un musicien de Minneapolis qui a décrit avec passion la couleur framboise d'un chapeau, d'un béret, précisément. Et c'est ce détail, celui de la couleur et de l'accessoire. Vous savez que l'accessoire, c'est loin de l'être. Ça fait l'essentiel dans un souvenir. Raspberry Beret, Prince and the Revolution.
Tell me several times that
Prince avec le titre Raspberry Beret.
Merci. Parfait.
Merci beaucoup pour ce choix, cher Mathieu. Et d'ailleurs, notre réalisatrice Laurent Thomas a le corps hein, qui vibre de partout. Ouais, ça, c'est son amour pour Prince, la framboise pavoise sur notre plateau.
On va déguster. Sur France Inter.
La question qui fâche Nina Métayer. Il est considéré, ou il a été longtemps considéré comme banal ou normal, il y a encore quelques années, de voir dans les vitrines des grands pâtissiers des tartes à la framboise en plein mois de décembre ou en plein mois de février pour la Saint-Valentin. Est-ce que les choses ont changé? Dites-nous, est-ce que vous observez ça de l'intérieur?
Alors moi, j'ai vraiment l'impression que ça change.
Mm-hmm.
Évidemment, il y en a encore qui le maintiennent, mais je pense aussi que les clients sont beaucoup plus ouverts et comprennent maintenant que c'est pas bien d'avoir ça dans une vitrine.
Oui, parce que souvent, les pâtissiers trouvaient comme excuse « Ah bah oui, mais nos clients nous demandent des tartes à la framboise. »
Exactement. C'était l'excuse.
En plein hiver.
Ouais, quand je travaillais dans certains établissements, on me demandait de faire ça en disant « Le client veut, oui, mais s'il en a pas, il mangera autre chose. De toute façon, il veut son gâteau. » Et les bûches de Noël à la framboise ou à la fraise, c'est plus possible. Et du coup, c'est vrai que maintenant, c'est vraiment pointé du doigt. Et les clients, quand ils voient, moi j'ai certains retours clients, que quand ils voient des fruits rouges en hiver dans une vitrine, bah, ils vont pas aller acheter là-bas. Parce qu'ils vont se dire, cette personne-là n'est pas dans une bonne démarche. Et du coup, on est passé dans le côté positif, où les clients, maintenant, peuvent de même aller choisir là où ils achètent.
C'est ça. Et vous, en l'occurrence, pour votre travail, Nina Métayer, la saisonnalité est au cœur de votre action.
Oui. Alors nous, on évolue au fur et à mesure des saisons. L'hiver, on est sur des fruits d'hiver, l'été sur des fruits d'été. Le fruit rouge, on l'attend avec impatience quand on arrive à la fin des agrumes, à la fin de toute cette saison un peu longue, mine de rien, entre décembre et avril. On attend la rhubarbe avec impatience. Et quand elle arrive, quand les fruits rouges...
C'est ça la joie des saisons.
C'est génial.
Mais c'est finalement ce qui était plus ou moins appliqué, mais en tout cas avec quand même pas mal de force en cuisine. Et en pâtisserie, il y avait cette espèce d'exception. On considérait que la saison, c'était quelque chose d'un peu superfétatoire.
Bah on a pris beaucoup de retard parce que aussi on travaille avec moins de fruits frais qu'en cuisine, où on va travailler avec vraiment des légumes dans l'assiette, etc.
Vous travaillez avec des préparations fruitées, c'est ça que vous dites? Des fruits conditionnés?
Voilà, des fruits conditionnés, mais il n'y a que sur les tartes où on va avoir beaucoup de fruits frais. Après, on a tout ce qui est basique, donc des flans, des choses comme ça, où là, on va moins être penché sur les saisons. Maintenant, on a beaucoup plus accès aussi à ces bons produits. On a accès à nos petits producteurs, aux gens qui travaillent bien, et ça, c'est chouette pour nos professionnels.
Nina Métayer, vous appartenez au Collège culinaire de France.
Oui.
C'est une grande association qui réunit à la fois des artisans de bouche, des cuisiniers, des pâtissiers, des producteurs, autour d'ailleurs d'une charte particulièrement exigeante. Philippe Sébi, qu'on entendait, notre producteur de Tourcent, est lui aussi au Collège culinaire de France. Est-ce que vous vous souvenez, il y a un an, de leur opération coup de poing?
C'est ça, c'était au moment de la Saint-Valentin.
Voilà, en 2021, février 2021.
Voilà, on commençait à voir sortir sur les réseaux sociaux, sur Internet, tous les desserts des pâtissiers. Et il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup à la framboise.
Aïe.
Et là, ils ont sorti leur boule à neige. Et ils l'ont envoyé à tout le monde.
C'est
une
ça.
Boule à neige avec des petits flocons à l'intérieur et une photo de framboise.
Et ce slogan, les fruits en hiver, mieux vaut les regarder dans une boule à neige. Voilà, l'histoire ne raconte pas si cette boule à neige a une grosse empreinte carbone quand même, parce qu'on parle de plastique et de... En tout cas, ça a été vraiment une opération de promotion pour promouvoir dans nos métiers, dans les métiers de la cuisine et de la pâtisserie, la saisonnalité. Et ça a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Et les derniers pâtissiers à continuer à travailler de la fraise et de la framboise au mois de février ont commencé à se calmer un peu. La framboise, elle est déjà présente sur vos gâteaux ou pas ? À la délicatisserie ?
Alors, pas encore. Elle va arriver en mi-juin, je pense. Ça dépendra. En fait, c'est le fournisseur, quand il sera prêt à me livrer toutes ces framboises, qui me donnera le go. Moi, j'attends vraiment les fournisseurs. Et dès qu'ils me disent, c'est bon, dans 2 semaines, je t'en donne, là, on commence à préparer les desserts.
Dans un instant, 2 très belles recettes framboisées. Il y aura un financier à la framboise. Et également une confiture qu'adore Mathieu. Là, il a tout englouti.
C'est complètement dingue.
Elle est magnifique. Hein.
Ah. Oui. Un petit teasing alors autour de cette confiture de framboise qui a un petit truc particulier.
C'est vraiment un bouquet de fleurs
et
de framboises.
Voilà, avec une fleur de printemps absolument extraordinaire. Ça, c'est vrai que ça fait un gros choc sur le plateau dont on va déguster. La framboise dans le verre, mais sans framboise, vous allez comprendre, avec notre chroniqueur vin Antoine Gerbel.
On va déguster. Sur France Inter.
Quelle énigme !
On avait déjà quelques indices, donc la framboise, je ne m'en cache pas, mon fruit préféré. Donc quand je fais des dégustations de vin rouge, vous savez, on a des marqueurs, on cherche, donc j'en cherche beaucoup de la framboise. Alors il y a plusieurs cépages qui ont ces notes, on va citer le pinot noir, mais lui, il a de la cerise, il a de la framboise, il a de la mûre, il a un peu tout. Les cépages du Jura aussi, on peut retrouver ça, donc a priori sur des cépages plutôt septentrionaux. Mais il y a un cépage, oublié, mais qui revient progressivement, qui a ce marqueur jeunes et vieux, on va les déguster tout à l'heure dans les verres, et bien ce cépage s'appelle le cinceau.
Eh oui, le cinceau, résolution de l'énigme.
Voilà, l'énigme, c'est le cinceau.
Et alors, vous nous appelez cinceau ?
C-I-N après
S-A-U-L-T.
Voilà, ne pas oublier le L à la fin. Le cinceau, alors il a une belle histoire, il a une histoire bien évidemment méditerranéenne, apparemment vient de Provence, mais comme tout ce qui naît en Provence vient sûrement de plus loin et des confins de l'Orient, très planté jusqu'à une première partie du XXe siècle, après le phylloxéra, parce que c'est un cépage qui pousse sur la rocaille et absolument sans eau, vraiment dans une condition très très sèche, et les raisins sont magnifiques, en Occident on dit des bonnes grappasses, les baies peuvent arriver à la taille de belles prunes. Et c'est un cépage peau noire, jus blanc. Mmh. Et c'est un cépage qui peut faire aussi bien en raisin de table. Le raisin de table s'appelle œillade, mais c'est exactement la même famille que le cinceau. Donc il était polyvalent et on en trouvait partout. Et on en trouvait tellement partout qu'on en a produit beaucoup et on a fait pisser la vigne pendant très longtemps. Et ce cinceau a permis de faire des petits rosés à 8-9 degrés. Alors que bien travaillé, avec des rendements relativement sages, ça peut faire des rouges hyper délicats. Et alors là, je fais une petite digression parce que j'étais là en train de penser à mon cinceau. J'étais à Lyon. Je me promenais du côté de Fourvière, dans le 5e arrondissement.
Une bonne adresse dans ma ville natale.
Et voilà, je me promenais dans le 5e arrondissement. Il me dit, il faut à tout prix que tu ailles voir une jeune cave qui vient d'ouvrir, s'appelle Pointu, qui s'est ouvert juste pendant le Covid. Alors, ça s'appelle Pointu, vin renversant. Je pousse la porte. Je rencontre une jeune caviste passionnée, extraordinaire, qui s'appelle Alix Petit Jean, 37 ans, un parcours à Paris, dans le conseil, et puis elle est tellement piquée au virus du vin, à passer ses journées chez ses copains cavistes, à rencontrer des sommeliers, qu'elle décide de monter, pas du tout dans sa ville natale, à Lyon, mais dans un très joli quartier, cette cave Pointue. J'étais là en train de réfléchir à mon cinceau, et je lui pose la question, et est-ce que vous aimez le cinceau ? Et là, je vois son sourire s'éclairer, et elle me sort 4 bouteille de cinceau dans une cave quand même, on est à Lyon, donc je dis, voilà, le hasard fait bien les choses. Et c'est ce qu'on va goûter, qui se trouve dans sa cave, mais qui sont des bonnes références sur ce cinceau. Un premier cinceau qui s'appelle l'œil du diable, en référence au fait que il a été un peu diabolisé, ce cinceau. J'ai beaucoup de vignerons de la génération des années 80-90, ils ont préféré arracher et mettre du merlot, du chardonnay, des choses internationales pas très intéressantes, donc c'est un peu le diable. Et c'est un clin d'œil, l'œil du diable c'est produit par Poivre d'Âne, c'est une jeune petite maison de négoce qui est basée à Argelès et qui ne va chercher que par petites touches, un peu comme des cueilleurs, des vieilles vignes de cinceau qui restent. Alors on est à la limite des Cévennes, on est du côté des terrasses du Larzac, on est à la frontière de l'Hérault et de l'Aude, et ils nous ramènent ces jus-là. Alors moi j'ai adoré ce vin-là, ça s'appelle l'œil du diable, c'est un 100% cinceau, c'est macéré
peu de temps, c'est infusé, un peu comme un sachet de thé, on laisse poser ça tranquillement, et ça exprime vraiment énormément ces notes de framboise, cette texture très très fine. Et puis j'ai trouvé alors une autre rareté, et ça c'est, j'étais assez bluffé, c'est le Clos Santeil, c'est Capitale de Santeil, ça c'est là, vraiment le domaine historique dans le Languedoc où on a gardé, on n'a jamais arraché de Saint-Saul, la famille Santeil, qui est aujourd'hui pilotée par Cécile, la fille de la famille, qui est une vigneronne, qui reprend tous ces cépages, parce que je crois qu'il y a 17 cépages historiques patrimoniaux du Languedoc, et là, ils gardent les vins. Et là, vous avez un 2010 dans votre verre. Alors, c'est un peu comme la framboise crue et la framboise cuite. Dès qu'on est passé sur le crumble, on est arrivé sur des notes plus sucrées, plus soif, un peu plus collantes au palais. Mm-hmm. Et là, c'est ce que raconte un petit peu cette capitale de Santeil qui est vraiment, vraiment une référence absolue. Et puis, voilà, j'ai fermé la porte de cette cave et je vous conseille d'aller la voir. Et si vous vous intéressez à ce cépage Saint-Saul, mais aussi à d'autres cépages patrimoniaux d'Occitan, je vous conseille un symposium qui a eu lieu il y a 15 jours à Montpellier, lors d'un salon qui s'appelait VO, version Occitan, où se sont regroupés des grands vignerons, je dirais Thierry Navarre, qu'on cite souvent, qui est du côté de Saint-Chinian, qui a parlé à la jeune génération comment retrouver des plants pour planter ses cépages et redonner une vie un peu occitane. Et ce symposium, vous pourrez le trouver gratuitement sur ma web TV, Tellement Soif, qui fête en juin 2022, c'est 4 ans.
Et elle est drôlement bien, votre télévision, Tellement Soif, avec... plein de rencontres, de reportages et la retransmission de ce symposium sur les cépages occitans, enfin en tout cas les cépages...
Occitans oubliés.
Oubliés, absolument. Un grand merci Antoine Gerbel, remettons-nous au Saint-Saul avec modération évidemment. Et puis attaquons ce financier, framboise. Alors, un financier peut être avec ou sans framboise ou même d'autres fruits.
Oui, alors moi j'aime particulièrement le financier framboise. Et alors, il y a ce côté un peu beurré, doux, généreux, réconfortant.
Très gourmand du financier quoi.
Voilà. Et puis la framboise qui vient rafraîchir tout ça et lui donner un côté printanier, un côté été et fleuri. Quoi.
Avec cette belle texture compotée aussi, hein. Il est merveilleux ce financier, comment vous y prenez?
Alors, très important d'utiliser du bon beurre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de beurre dans un financier. Et je le fais griller justement, donc j'essaie de faire griller mon beurre noisette, mais à feu doux. Et longtemps, il faut toujours mélanger. Il ne faut jamais qu'il y ait un dépôt noir, il faut qu'il soit brun. Il faut bien colorer ce petit dépôt.
Couleur noisette?
Voilà, et je le garde.
Ah oui.
Je le chinoise pas, je le garde. Oh. Et ensuite, je le mélange avec avec mes farines, avec ma farine, mon sucre. Et j'aime bien rajouter du miel, mais aussi une poudre de noisette que je vais venir torréfier.
Ah, pour renforcer son goût.
Voilà, pour apporter un peu plus de noisette, un petit peu de noisette grillée. Alors je fais torréfier ma poudre de noisette à 140 degrés pendant un petit peu de temps quand même. Donc ça dépendra vraiment du four, il faut qu'elle soit bien grillée, bien torréfiée, mais pas plus de 140 degrés.
Et attendez, on sent aussi des éclats de noisettes.
Oui, bien sûr.
Ils sont couverts.
C'est incroyable, le jeu de texture de ce financier entre le croquant de la noisette et le côté un peu mouillé, mouillé confiture de la framboise.
La framboise va venir humidifier justement ce financier et ça va venir l'imbiber naturellement avec le jus et c'est ce qui va lui donner toute la fraîcheur.
Vous validez ou pas, Marie?
Ah oui, il a un moelleux, on dirait un petit coussin.
C'est dingue, la recette à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster, et la recette qui a mis une claque à tout le monde. Alors effectivement, il y a un petit indice livré par Mathieu et Marie d'une fleur printanière qui vient colorer comme ça, accompagner, escorter cette framboise.
Alors c'est une confiture de framboise avec de la fleur de sureau.
Ouais, c'est dingue. Oh.
J'ai la couleur.
Vous marquez des points dans cette émission, Nina.
Ah oui, là, c'est...
Je suis ravie que ça vous plaise.
Incroyable.
On a l'impression de manger, en fait, des framboises sous un sureau.
C'est ça. Bien dit.
Ça, c'est vraiment
dans le jardin normand de Nina.
Exactement. Voilà.
Ça, on est tous les bienvenus.
Ça donne un côté bonbon à la framboise. C'est-à-dire que l'acidulé du sureau prolonge ce côté vraiment enfantin, je trouve, de ce goût très beau.
Comment vous vous y prenez, là aussi?
Alors là, je fais mon sirop de sureau. Quand le sureau est en fleur et qu'il y en a plein, on s'y met à plusieurs, on va cueillir le sureau.
Ah, c'est fastidieux parce qu'il faut retirer les petites fleurs une par une.
Il faut vérifier qu'il n'y ait pas trop d'insectes, etc. Tout ça, faut...
C'est punaise.
Voilà. Et en fait, du coup, je fais macérer ces fleurs avec du sucre cassonade toute la nuit, juste avec du sucre. Et on va tirer, en fait, le sucre va venir récupérer tout le goût de la fleur et ça va venir faire dégorger le jus de la fleur. Et à ce moment-là, je mets de l'eau aussi. Et ensuite, je laisse infuser toute la nuit, Après, je suis chinoise, donc j'enlève les fleurs et je porte une petite ébullition parce qu'il y a quand même pas mal d'insectes.
Quelle quantité pour un sirop de sureau, c'est dur à dire. Un sirop de sureau, rapport fleurs, sucre, eau.
Alors, je mets à hauteur. On va dire que il faut que l'eau soit à hauteur des fleurs, qu'il n'y en ait pas trop surtout. J'écrase un peu les fleurs dans l'eau, faut pas hésiter à écraser un peu, à bien mélanger avec les mains. Moi, j'aime bien le faire avec les mains.
Et le sucre ?
Et le sucre, je mets quelques poignées pour que ça vienne enrober les fleurs. Et donc ce sirop-là, je le porte à ébullition, ensuite je le mets dans des bouteilles et je peux le garder toute l'année.
Ah.
Et ça, c'est mon sirop, c'est encore ma cuvée de l'année dernière qui a servi à faire cette confiture. Et après, je vais sucrer avec ce sirop de sureau. Je rajoute un peu de sucre, mais ça dépend vraiment aussi des framboises que j'ai. Plus elles sont sucrées, moins je rajoute de sucre. Mmh. Et puis après, c'est surtout au niveau de la conservation, il faut juste le garder au frais s'il y a un peu moins de sucre. Mais moi, j'aime bien les confitures pas trop sucrées quand même.
Bravo, hein. Franchement, c'est explosif. Un vrai, vrai régal. Un grand merci, Nina, pour toutes ces recettes. Je voudrais juste vous signaler une actu framboise. Connaissez-vous Machilly ? C'est une commune de Haute-Savoie qui est située non loin de la frontière suisse. Et Machilly n'est pas du tout spécialisée dans la mâche. Mais dans la framboise, à partir des années 30, le petit fruit va s'enraciner dans ce terroir qui est vraiment un terroir parfait pour la framboise. En 1947, il y a une coopérative qui sort de terre. Elle va compter jusqu'à 1500 adhérents. La production de Machilly, c'était 1900 tonnes en 1957. Et ensuite, il y a eu une sécheresse en 1962 qui a mis à mal la production. Et aujourd'hui, il reste à Machilly une seule productrice de framboises de Machilly. C'est la ferme Lyonnais, Sandra Lyonnais. Et elle est en partenariat avec le refuge des gourmets du chef Jean-Marie Chanov, auquel son fils Hubert a succédé en 2019. Ce restaurant étoilé est situé 90 route des framboises, ça ne s'invente pas, et propose tout l'été un menu tout framboise en plusieurs services. Crémeux de chèvre frais de Bellevaux, noisettes du Piémont, framboises et pimprenelles, omble chevalier du Léman avec un gazpacho tomate et framboise, enfin bref, de la framboise à tous les étages, de l'entrée au dessert. On vous invite à aller voir cette adresse. Moi, personnellement, j'ai pas testé, mais il paraît que ça vaut vraiment la peine. Un grand merci à tous. Merci Marie et Mathieu.
Merci.
Merci beaucoup Antoine.
Merci à tous.
Merci. Merci Nina. Et on rappelle que vos gâteaux se retrouvent à la Délicatisserie.
Exactement.
Magasin Le Printemps, boulevard Haussmann à Paris.
Voilà. Et sur le site internet aussi pour toutes les précommandes.
Pour les précommandes, c'est important. La semaine prochaine, au menu dont on va déguster la cuisine tamoule. Un passionnant et méconnu répertoire culinaire. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.